France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saintès.
Faites le test en descendant dans la rue, quelle que soit la ville où vous habitez, surtout les plus grosses, bien sûr, vous entendrez, c'est sale. Et c'est bien parce que c'est bien pour ça d'ailleurs que les déchets arrivent tôt ou tard dans les discussions des campagnes pour les municipales dans votre ville. Pas assez de poubelles ou pas assez de ramassage, pas de solution pour les biodéchets, des trottoirs parfois encombrés de déchets, des décharges sauvages ici et là ou parfois à grande échelle. Ne négligeons pas notre part à nous, les citoyens, qui sommes souvent réfugiés derrière notre poubelle jaune pour dire « Non mais moi je trie, c'est après que ça coince ». Nous avons tous évidemment des efforts à faire pour limiter nos déchets, ce qui a d'ailleurs permis d'imaginer la taxe en fonction des déchets produits, au poids, nous y viendrons, c'est peut-être le cas dans votre commune, et vous nous direz si ça marche ou si ça ne marche pas. Il n'empêche que le constat est là, c'est bien votre communauté de communes qui est en charge de la collecte, du fonctionnement des déchetteries, du traitement, du tri, et tout cela a un prix, c'est nous évidemment les administrés, qui le payons. S'ajoutent pour les collectivités des obligations réglementaires, la limitation du plastique, le refus du gaspillage et la pression des associations. Il y en a sur ce plateau. Nous savons tous que le meilleur déchet, c'est un déchet qui n'a pas été produit. Et bien sûr que les poubelles sont la conséquence de notre consommation. En attendant, comment on fait mieux? Vous allez nous parler de la collecte des biodéchets, peut-être. Mais la plupart des communes, en fait, n'en ont pas installé de solution parce que c'est un surcoût que les municipalités ne peuvent pas se permettre. Alors, quelle gestion intelligente des déchets dans notre ville, qu'est-ce que vous attendez, vous, de votre municipalité? Qu'est-ce que vous dites peut-être à votre maire? C'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Mireille, c'est vous la première et vous êtes la bienvenue, bonsoir.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tout le monde. Alors moi, ma question portait sur la gestion des encombrants. Parce que je suis dans un village et on nous a installé des containers pour la poubelle normale, des containers jaunes pour le recyclable, mais pour les encombrants, ça devient extrêmement complexe parce qu'ils ont inventé des badges qui sont liés à la carte grise. Donc, si on n'a pas de badge et on peut pas monter le porter à la déchetterie,
si on n'a pas de voiture, surtout.
Ils les mettent comme... Pardon ?
Et puis si on n'a pas de voiture, surtout. Non, mais je dis ça sans plaisanter,
Mireille.
Si on n'a
pas de voiture, voilà. Alors, en fait, j'ai posé la question et ils m'ont dit c'est seulement réservé aux personnes âgées. Mais en fait, ils considèrent que personnes âgées, c'est plus de 90 ans. J'adorais. Et donc, par contre, les containers jaunes, ils ont inventé des portes, des trappes qui sont à peu près le format A4.
Ok.
Donc, en gros, si on a un objet un peu encombrant, il ne rentre pas. Résultat, les gens le posent par terre. Et c'est un avantage d'avoir des bornes, des grands bacs, mais si personne ne peut s'en servir, ça continue à être posé par terre.
Est-ce que vous parlez des encombrants, Mireille, est-ce que ça veut dire que vous avez le sentiment dans votre commune qu'il y a beaucoup de décharges sauvages, en fait? Puisque...
Ah, ben, y a beaucoup de décharges sauvages auprès des containers, parce que comme ils sont placés en général près des parkings, on a tous les autres habitants qui viennent les déposer là. C'est pas forcément les gens d'ici, hein. On sait pas.
Les fameux points d'apport volontaires, j'imagine. Mireille, merci beaucoup. Merci pour cette entrée en matière. Et bon courage pour votre voyage à la déchetterie dans votre petite votre village de l'Hérault. Merci beaucoup pour discuter ensemble. Et jusqu'à 20h, autour de la table, il y a Pauline de Brabander. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes responsable plaidoyer et campagne à Zero Waste. Et il y a Nicolas Garnier. Bonsoir.
Bonsoir.
Délégué général de l'association Amorce. On va pas forcément rentrer dans le détail de toutes les problématiques très locales de Mireille. Mais moi, ce que je trouve intéressant, et ça, pour le coup, on le retrouve déjà beaucoup, Nicolas Garnier, par exemple, c'est parfois c'est trop compliqué, parfois c'est complexe, et c'est ça qui provoque les décharges sauvages, en fait. Est-ce qu'il y a un problème, parfois, de complexité, désormais, dans la gestion des déchets, ou pas?
Merci pour cette première question, qui est quasiment philosophique, on a 4 heures pour la résoudre. En fait, oui, notre poubelle, c'est notre mode de vie, et notre mode de vie, il est complexe. Je dis souvent, aux gens qui disent « trier, c'est compliqué », dans un supermarché, vous passez d'un rayon à l'autre, vous allez dans différents magasins, donc finalement ce que vous achetez...
Vous mettez tout dans le même chariot, pardon, puis dans le même frigo.
Vous avez, si. ouais, Vous allez dans plusieurs magasins, d'acheter des produits différents. Donc finalement, la complexité de nos modes de consommation, vous achetez sur Internet, vous achetez en magasin, en local, etc. Donc la complexité de nos habitudes de consommation, bah, vous la retrouvez dans la poubelle. Et effectivement, dans une poubelle, vous avez tous les pays du monde, ça vient des quatre coins de la planète, vous avez toute la table de Mendeleïev également. Donc oui, il y a une complexité dans une poubelle. Effectivement, c'est bien de le dire, c'est que l'erreur serait de croire qu'une poubelle, c'est simple, y compris quand on va devoir la trier, parce que quand elle n'est pas triée, on ne sait pas quoi en faire véritablement, puisqu'on ne va pas pouvoir la recycler, on ne va pas pouvoir la réemployer, la réparer. Donc effectivement, la question du tri, elle est assez essentielle pour qu'on puisse avoir une deuxième vie ou une boucle, comme on dit, d'économie circulaire. Sinon, c'est plus compliqué. On peut faire un peu d'énergie, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué. Donc oui, la geste de tri s'est complexifiée. Alors nous, à Amorce, on y a beaucoup travaillé, puisqu'aujourd'hui, il y a une quinzaine de gestes de tri que vous pouvez faire au quotidien. Vous allez me dire, c'est énorme. Il y a les emballages. Mais c'est intéressant ce que disait Mireille, parce que c'est souvent la face cachée de l'iceberg, c'est les encombrants, effectivement, ce qu'on doit ramener en déchetterie. Aujourd'hui, en France, un Français produit 600 kilos de déchets. Les deux tiers sont dans nos bacs et dans nos points d'apport volontaire, et un tiers sont en fait des gros objets ou des déchets verts, des grosses choses qui vont faire effectivement vers ces déchetteries. On en a 5000 sur le territoire français, donc il est très bien maillé par ces déchetteries publiques.
Mais je reviens quand même à ce que nous disait Mireille, Pauline de Brabanders, quand on ne sait pas où mettre les choses, en général, donc elle parlait des gros objets principalement, on les pose à côté de la poubelle jaune alors qu'elles n'ont rien à y faire. J'imagine que Mireille nous parlait des fameux points d'apport volontaires, c'est ce qu'il y a dans beaucoup de communes, à la sortie des villes ou sur les parkings, etc., pour que chacun puisse aller. C'est comme ça qu'on crée aussi de la décharge sauvage. Donc, est-ce que dans la clé de notre gestion municipale des déchets, il y a aussi une forme de simplification ou pas ?
Il y a surtout un accompagnement, en fait, au changement, à ces nouvelles pratiques, parce qu'on ajoute aussi des collectes séparées. On a évoqué très brièvement les biodéchets, par exemple, où on met d'apport volontaire aussi pour les emballages, pour certains déchets en particulier. Et donc, il y a un véritable enjeu de simplification, de faire des points de regroupement de tous ces points d'apport volontaire, notamment, mais aussi d'accompagner les habitants et les habitantes au changement, parce qu'un changement, ça ne se décrète pas, un changement de comportement, ça s'accompagne, et donc il faut faire aussi de la sensibilisation, et ça demande aussi, bien entendu, des moyens, mais de l'accompagnement en porte-à-porte, notamment, pour aller sensibiliser sur ces nouveaux modes de fonctionnement.
Et puisqu'on est quand même dans une perspective d'élection municipale et dans ces thématiques-là, est-ce que ça veut dire que c'est vers les mairies qu'il faut aller ? Est-ce que c'est vous qui vous en chargez ? Comment on fait pour l'expliquer, cette simplification, potentiellement, expliquer pourquoi la collecte qui est organisé par la communauté de communes, désormais se fera différemment, j'en sais rien, avec un jour différent, avec du jaune plus souvent ou du vert plus souvent, etc. Est-ce que c'est de la part des communes que ça doit venir, ça, ou est-ce que c'est vous qui devez vous en charger,
C'est notre rôle en tant que représentant des collectivités locales. Je représente les collectivités, toutes les collectivités qui collectent et traitent les déchets en France, que ce soit dans le monde urbain ou dans le monde rural. Effectivement, on a deux enjeux. Le premier, on aurait pu le dire tous les deux, mais si les gens veulent avoir moins de déchets à trier, il faudrait déjà qu'ils aient moins de déchets. C'est-à-dire que l'un des enjeux, c'est d'avoir moins de déchets, donc d'aller plus vers des produits qui ont des longues durées de vie, ne pas aller sur, j'ai le droit de le dire, je crois, Shine ou Temu pour acheter des produits qui durent pas longtemps, etc. Donc il y a un premier enjeu de prévention. Le deuxième, c'est effectivement d'avoir une communication claire sur ce qui est triable, les emballages d'abord, mais ensuite vous avez les textiles, les meubles, etc. Et donc tout ce que je disais tout à l'heure. L'autre élément important également, c'est de rappeler, et c'est pas assez su, c'est que vous pouvez ramener vos produits usagés en magasin. Dans un certain nombre de produits, on pense en particulier aux déchets électriques, électroniques, aux meubles, et finalement le retour à l'envoyeur, ce que nous on appelle le retour à l'envoyeur. Vous allez acheter un nouveau pull, vous ramenez le pull au magasin dans lequel vous allez acheter de nouveau. Ça peut être intéressant.
Mais pardonnez-moi, je comprendrais bien ce que vous dites, Nicolas Garnier, mais je me mets à la place de Mireille dans son village de l'Hérault, et je doute qu'elle aille ramener son pull dans son village de l'Hérault. Donc à ce moment-là, elle l'a acheté quand même. Oui, non, mais elle l'a acheté, d'accord. Son souci à elle à ce moment-là, c'est comment fonctionne et comment pourrait fonctionner mieux la gestion des déchets à l'échelle de notre village. Et c'est là aussi qu'elle parlait de complexité et peut-être parfois de choses inadaptées, en fait. Qu'est-ce qu'on peut répondre à Mireille là-dessus ?
Je vais essayer de vous répondre de manière très concrète. Aujourd'hui, on est tiraillé entre donner un service de meilleure qualité, ce que demande Mireille, et le coût, qui est l'autre sujet important. C'est-à-dire que la gestion des déchets, aujourd'hui, ça coûte 150 euros par habitant.
On y est. Ouais,
600 euros par personne. Un demi-SMIC par famille. Donc ça devient très cher. Et c'est vrai que notre rôle est aussi d'optimiser ces solutions. Par exemple, aller chercher des encombrants au porte-à-porte, certains l'ont fait, ça coûte cher. Donc c'est vrai que maintenant, on va vers des déchetteries mobiles ou vers des déchetteries fixes, de manière à dire aux gens, c'est à vous de ramener cet appareil. Si on veut le chercher, c'est vous. Votre facture, votre taxe dans les 20 heures ménagères va exploser. Donc on est dans cet équilibre difficile entre à donner un service de qualité et en même temps donner un service qui coûte pas trop cher, parce que sinon pendant les municipales on va nous venir dire comment ça se fait que les poubelles coûtent si cher. Ça, c'est le problème. Et il y a un dernier acteur dont on n'a pas encore parlé par rapport à la question du coût et de la qualité des services, c'est les metteurs sur le marché. C'est-à-dire que, vous l'avez dit, soit finalement cette facture, c'est 600 euros, c'est juste le contribuable qui le paye, mais il y a quand même quelqu'un dans l'affaire qui a mis sur le marché ce produit, ce pull, cet emballage, cette télé, etc. Et lui, il doit aussi contribuer à ce financement du service. Et c'est le grand combat qu'on mène à Amorce, c'est ce qu'on appelle la responsabilité élargie des producteurs, je pense qu'on va en parler, c'est ces collectifs où on dit, c'est pas que aux contribuables à payer, c'est aussi à Shine, à Temu, à Danone et aux autres de contribuer, ce qu'ils font en partie mais pas totalement, de manière à avoir un service de qualité pour répondre aux questions de Mireille et des autres habitants.
Est-ce que Pauline Desbrabandeur, on va retourner au standard dans un tout petit instant et nous parler de sa la poubelle jaune format A4, est-ce que c'est fait pour en fait, est-ce que c'est exprès justement pour qu'il y ait une réflexion sur ce que chacun jette et peut-être aussi sur ce que ça représente, et quand on sait ce que ça représente on comprend aussi ce que ça coûte ou pas.
Sur le, vous voulez dire le format A4 pour le bac d'emballage.
Exactement.
En fait, je pense que déjà, là, le premier enjeu que ça doit dire, c'est surtout le manque de clarté. La majorité des gens ne comprennent pas ou n'ont pas vraiment conscience. C'est une poubelle à plastique, c'est une poubelle à, on ne sait pas, à carton, à papier. En fait, c'est une poubelle d'emballage et de papier. C'est tout. Et ce format, enfin, le format A4 correspond quand même à une grosse majorité d'emballages. Donc, c'est vrai que pour les plus gros emballages, techniquement, il faudrait réfléchir à d'autres formats. Mais dans les faits, c'est aussi, je pense, pour limiter les erreurs de tri, en fait, les mauvais produits qui ne sont pas censés se retrouver dans cette benne à emballage.
Et comment ça se passe après, justement, au bout de cette chaîne, on va y aller doucement. Voici Dominique qui est avec nous et qui nous appelle depuis la Haute-Corse. Bonsoir Dominique.
Bonsoir France Inter, bonsoir à vos invités. En préambule, je voudrais dire qu'on incite assez souvent sur le tri des ordures ménagères. Mais ceci étant, je crois qu'il y a aussi... le fait qu'il faut insister que on prend pas suffisamment en compte la santé qui provient justement de cette la propreté, l'hygiène et la santé. Donc c'est très important de mettre un peu l'accent sur les élections municipales et par rapport aux ordures ménagères.
C'était le sens de votre question, Dominique, parce que ou c'était votre préambule?
En préambule, je dis le tri aussi est important. Hein. Je pense que le tri des ordures ménagères pour faciliter justement le ramassage des ordures ménagères de celles-ci.
Ah.
Et c'est, je crois que c'est important, oui.
Ce que je vois, Dominique, dans ce que vous nous avez dit, c'est que notamment pour ce qui est des ordures ménagères, c'est le manque de poubelles en fait. Et au fond, ça rejoint ce qu'on disait Pauline Desbrabandeur sur le fameux format tout à l'heure. Lui parle de manque, et après tout, et en même temps, plus il y en a, plus on les remplit, donc peut-être que ce n'est pas une bonne solution d'en avoir beaucoup, mais y compris en termes de coût, parce que plus il y en a, plus ça se ramasse, et plus il y en a beaucoup à ramasser, plus ça coûte cher. Comment on le trouve, cet équilibre-là? Comment vous le voyez, cet équilibre-là à Zero Waste?
En tout cas, chez nous, la partie collecte, et justement le nombre de bacs, le nombre de collectes sur le territoire, ça va vraiment venir jouer aussi sur le tri en lui-même. C'est-à-dire que si vous avez un bac d'OMR, donc d'ordures ménagères, qui est collecté seulement toutes les deux semaines, vous allez avoir tendance à mieux trier vos emballages qui vont être ramassés plus souvent, collectés plus souvent, à trier vos biodéchets.
Ou à être bien embêté quand même, parce que deux semaines c'est long.
Mais en fait, c'est aussi une mode d'incitation, une forme d'incitation à utiliser les autres solutions de tri. En fait, l'objectif c'est de trier vos biodéchets. L'objectif c'est qu'il y ait encore moins de déchets qui restent dans les ordures ménagères. Aujourd'hui, l'ADEME le redit, il y a 70% des déchets de la poubelle noire d'ordures ménagères qui ne devraient pas s'y trouver. En fait, il y a encore 30% de biodéchets, il y a encore 30% d'emballages, il y a encore plein de textiles, c'est pas possible, il faut réduire cette partie-là.
Alors, textiles, là-dessus, on est d'accord, c'est même scandaleux. Après, pour ce qui est des biodéchets, par exemple, on se souvient tous que, parce que c'est très récent, que théoriquement, nous devons tous, qu'on soit dans un immeuble collectif ou dans un pavillon, c'est plus facile, il suffit d'avoir un compost au fond du jardin, mais enfin, tout le monde n'a pas cette chance-là. Tous les biodéchets donc, doivent pouvoir trouver une solution, c'était assez récent, sauf que j'ai lu en préparant cette émission qu'un tiers des communes seulement avaient trouvé une solution, parce que c'est cher. Comment on les collecte, les dépôts de biodéchets à quel moment?
Oui. Alors d'abord, la loi dit qu'il y a quatre solutions, pour parler un peu très concrètement de ce qui peut se passer dans les collectivités locales. Soit le compostage individuel, que vous avez cité, mais il faut un jardin.
Oui.
Soit le compostage de quartier, il faut un quartier, tout le monde en a un, ou en tout cas de village, ça arrive aussi dans le monde urbain, c'est-à-dire un lieu fermé qui ouvre quelques heures dans la semaine ou dans la journée, généralement géré par des associations, des bénévoles, et dans lequel vous pouvez amener vos biodéchets. Nous, on en a, par exemple, j'habite à Lyon, j'en ai un à 300 mètres de chez moi, et je suis sûr que Pauline a la même chose. Il y en a aussi à Paris, puisqu'on est à Paris.
Bien sûr,
il y en a,
bien sûr, voilà. Oui.
Donc c'est la deuxième option. La troisième option, c'est des points d'apport volontaires de collecte des biodéchets, mais par contre, il y a ensuite un camion qui vient les prendre pour les composter ailleurs que sur le lieu. Et le quatrième, c'est le porte-à-porte. Voilà les quatre options prévues par la loi. Alors là où je suis plus optimiste ou plus positif que vous...
Encore une fois, la question, c'est qu'est-ce qui est plus cher pour la commune et donc devient plus cher pour nous qui sommes
les habitants de ces communes. Donc je dis, aujourd'hui, on peut considérer que 60% de la population a une solution de tri à la source des biodéchets. Donc ça veut dire quand même qu'on a fait les deux tiers du chemin. Donc c'est plutôt positif, sachant que, et on vient de se le dire, c'est que c'est cher. En gros, mettre en place un tri à la source des biodéchets en moyenne nationale, c'est 10 euros de plus par habitant, par an. Donc ça veut dire, à l'échelle d'une agglomération de 100 000 habitants, la décision, c'est 2 millions d'euros de plus de taxes dans les ventes des ordures ménagères, même après avoir optimisé un certain nombre de prix. Donc c'est vrai que les collectivités sont un peu partagées, et là ça me permet de dire autre chose, c'est que, c'est un point important pour nous, c'est que le plus gros scandale de cette histoire de la gestion des déchets, c'est que sur ces 150 euros que l'on paye, là, par habitant, dont je parlais tout à l'heure, il y a 25%, c'est des taxes d'État. C'est-à-dire que l'État français taxe un service public de première nécessité et de propreté dont on vient de parler, juste parce que c'est pas bien d'avoir des déchets. Or, la question c'est, mais qu'est-ce qu'il y a dans ces déchets et qu'est-ce qu'on fait de cette taxe? Qu'est-ce qu'il y a dans les déchets? Il y a beaucoup de déchets qui se recyclent pas, et c'est pas logique que l'on sanctionne les contribuables et les collectivités, parce qu'il y a des produits jetables, un rasoir jetable, bien des couches culottes, etc. Ouais. Donc nous on dit, il faut aller taxer celui qui met sur le marché quelque chose qui ne se collecte pas sélectivement et qui se recycle pas, plutôt que de sanctionner par un impôt le contribuable qui n'y est pas pour grand-chose. Mais la deuxième élément important, c'est que cette taxe rapporte 1 milliard d'euros. Qu'est-ce que fait l'État avec ce milliard d'euros? Nous, on dit, mais financer le tri à la source des biodéchets, financer la réparation. Et non, l'État français garde l'argent pour lui et n'utilise pas l'argent de cette taxe sur les déchets pour financer le bon recyclage ou compenser le surcoût dont on vient de parler. Et là, on trouve qu'il y a une forme d'insincérité de l'État dans la politique de gestion des déchets, à taxer les contribuables plutôt que de taxer les metteurs sur le marché de produits non recyclables, à garder l'argent de cette taxe plutôt qu'à utiliser cet argent pour développer les solutions de tri sans augmenter les impôts. Sinon, les gens, ils vont dire quoi? Plus je paye, et ça c'est catastrophique pour
moi. Et moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'un peu antinomique en fait, parce que d'un côté évidemment, pour les communes et pour les communautés de communes, les prestataires de collecte et de traitement basent leurs tarifs sur les quantités. D'un autre côté, les consignes qu'ont dans nos maires, les injonctions parfois, ou les lois à suivre, et c'est bien normal, disent qu'il faut plutôt avoir un objectif de réduction des déchets. Donc peut-être que ces deux choses sont finalement à un moment antinomiques, non, Pauline de Brabandrea?
En fait, ce qui pose problème, et on en revient à la question du financement, c'est qu'aujourd'hui, on investit, et enfin, l'État, les collectivités, enfin, l'argent va principalement dans la gestion des déchets. Comme le disait Nicolas Garnier, il n'y a pas assez d'argent de la part de l'État qui va dans la partie prévention, en fait. On ne peut pas dire qu'on met en place une véritable politique de gestion des déchets si on ne cherche pas à éviter un certain nombre de déchets et la production d'un certain nombre de déchets. Il y a des emballages dont on pourrait se passer. Il y a les biodéchets qui n'ont rien à faire dans un incinérateur ou dans une décharge. Il y a quand même un certain nombre de déchets, du plastique à usage unique, qu'on pourrait complètement éviter avec des système de consigne. Enfin, il y a des alternatives qui existent, qui pourraient être mises en place, et il faut qu'elles soient financées. Et là, on en revient à un système de... Il faut investir dans ce financement de ces alternatives qui sont beaucoup plus durables.
On est en train de parler de la gestion des déchets juste avant les municipales. Dans le téléphone sonne ce soir avec Pauline de Brabandrea, qui est responsable plaidoyer campagne à Zero Waste, avec Nicolas Garnier, qui est le délégué général de l'association Amorce.
France Inter, le 18-20. 01 45 24 7000.
Et avec vous, Hervé, aussi, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Soyez le bienvenu, bonsoir. Hervé.
Merci beaucoup. Et, écoutez, je passe un petit coup de fil parce que j'habite une petite commune de 800 habitants. Je suis ancien conseiller municipal ici, donc je ne vais pas citer de nom parce que c'est bientôt les élections.
Mais s'il vous plaît, ouais. Sinon ça sera très compliqué.
Non, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Non, je disais que nous, évidemment... on paye une taxe d'un peu plus de 400 euros par an de c'est prélevé hein, sur les impôts fonciers. Mmh. Et nous mettons la poubelle, évidemment nous sommes plus que deux maintenant, les enfants sont partis, et je veux dire que si passe 7 fois, 8 fois dans l'année, c'est tout. Ça veut dire qu'à chaque fois, c'est 40 ou 50 euros. Alors, c'est chose curieuse, on m'a toujours dit, et j'en avais parlé d'ailleurs en conseil municipal, municipale, c'est toujours assez curieux de savoir que c'est à la surface de la maison. C'est pas au nombre des gens qui habitent dedans. Mmh. En plus, on fait un tri sélectif, on prend la voiture, on emmène les verres à la déchetterie, on fait au maximum de choses. Je veux dire, mon épouse fait du jardin, fait du compost. Je veux dire, il y a très très peu de poubelles. Donc à chaque fois, c'est quand même 400 euros par an, et à chaque fois, c'est 40 ou 50 euros que le camion passe.
En plus, 7 ou 8 fois, c'est pas beaucoup, dites donc.
Mais non, mais non, mais non. Mais parce que nous ne sommes que deux, puisqu'on fait du tri, parce qu'on on va à la déchetterie porter les verres, parce qu'on prend la voiture pour y aller, on fait...
Ah oui,
on
c'est
fait,
ça, donc ils passent une fois par semaine, etc. Mais vous, vous sortez les poubelles que 7 ou 8 fois dans l'année, parce qu'en fait, ce sont les seuls déchets que vous générez. D'accord, c'est, j'ai compris, pardon, j'avais compris de travers, Hervé, mais j'ai bien compris.
Non, je vous en prie,
c'est moi qui t'ai... Aussi, monsieur Garnier, vous n'avez pas...
Non, non, je vous en prie, madame.
J'avoue que j'avais compris la même chose que vous.
Mais j'entends bien ce que vous dites, et... Non, non, je vous en prie, vraiment, et ça nous mène à une vraie question, ce que nous dit Hervé, parce que ça existe dans certaines communes, dans certaines communautés de communes, le fameux prix au poids, finalement.
Au volume, plutôt. Au volume. Plutôt au volume. C'est plus au volume qu'au
poids. Ça dit pas la même chose, le volume et le poids, ou pas ?
Bah, c'est pas tout à fait la même chose, de ça, parce que le poids, vous pouvez, tasser vos ordures pour payer moins cher ou plus cher, etc. Donc, ce qui s'est plutôt développé en France, c'est une quantité levée...
Je comprends pas comment, quand on tasse, quand on tasse, ça reste aussi lourd. Non, parce que deux enclumes plus, tassées, ouais, c'est quand même deux enclumes.
Alors, je vais essayer d'être plus simple dans mon propos. C'est qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'était plus simple de compter des nombres de levées de bacs qui ont un volume... Ah. Que de peser, ce qui pose des problèmes aussi de sensibilité de la machine, parce que ça veut dire que votre benne, c'est aussi une balance, si vous voyez ce que je veux dire.
Oui, bien sûr.
Donc, ce qui s'est beaucoup développé en France, il y a un peu de poids, mais il y a surtout le lien entre un tarif et une quantité, un volume que vous avez demandé à la collecte, c'est-à-dire un nombre de bacs qu'on a levé chez vous, et la plupart des tarifications incitatives dont on va parler sont des nombres de bacs qu'on a enlevés et non pas des quantités pesées qu'on a enlevées. Voilà.
Mais est-ce que l'idée de faire du cas par cas, si je puis dire, Pauline Desbrabander, en fonction de ce qu'on consomme, donc de ce qu'on jette, est-ce que ça, c'est quelque chose qu'il faut arriver à étendre un peu partout, et pourquoi ça l'est pas plus aujourd'hui ?
Alors, il y a un objectif dans la loi de l'étendre, d'ailleurs. Ouais. Et pour nous, oui, c'est hyper intéressant d'avoir cette tarification incitative à partir du moment où les gens ont des solutions pour réduire le volume de déchets, en fait, de leurs OMR. Parce que si on n'a pas de solution de tri à la source des biodéchets à côté, on ne peut pas réduire. Si on n'a pas de solution pour, par exemple, les emballages aussi, pour la consigne des emballages, si on n'a pas de solution de couches ou d'éléments réutilisables pour l'événementiel, par exemple, on va toujours produire beaucoup de déchets. Donc pour nous, l'essentiel, ce que dit l'ADEME aussi, c'est qu'en fait, la tarification incitative fonctionne très bien. Et elle a vraiment des effets en termes d'encouragement de la population à aller utiliser des solutions existantes. Et sur le tri à la source des biodéchets, une fois qu'on a mis en place un tri à la source efficace, ça va inciter les gens à sortir leurs biodéchets, à utiliser les points d'apport volontaires. C'est efficace. Par contre, il faut effectivement qu'il y ait ces solutions existantes. Si on fait juste une tarification incitative, si c'est juste finalement repenser les coûts, en fait, sans qu'il y ait vraiment de l'incitation à réduire derrière, c'est là où parfois ça peut mal se terminer. Parce que les gens ont le sentiment de ne perdre une qualité de service, en fait.
Je comprends qu'on paye l'effort aussi. Enfin, on paye moins parce qu'on fait l'effort, justement, de recycler mieux ou de faire attention à nos déchets, avoir moins d'emballages, etc. Et en même temps, à l'échelle d'une commune ou d'une communauté de communes, moi je suis assez curieuse de ça, Nicolas Garnier, est-ce que c'est vraiment juste ?
C'est-à-dire, merci de me poser la question.
Bah oui,
j'allais y arriver.
Vous voyez, à la fin, alors c'est vrai qu'on ne produit pas le même nombre de déchets les uns les autres, mais je caricature un peu, mais on ne va pas tous à la piscine, mais pourtant on paye tous la même piscine pour la commune. On n'a pas tous de voiture, mais on paye pour le rond-point, etc.
Donc est-ce que vous avez répondu à la question, c'est-à-dire, en fait, il y a deux options. Soit vous faites financer ça par un impôt qui répartit, qui est solidaire, parce qu'on participe tous à la vie de la commune, mais ça veut dire qu'on déresponsabilise individuellement, soit on va vers une responsabilité individuelle par une tarification incitative, mais il y a moins de solidarité. C'est d'ailleurs souvent un modèle entre les deux qui a été mis en place par les collectivités. C'est-à-dire, vous avez une part fixe, qui est pour tout le monde la même, et vous avez une part variable plus ou moins importante. Par contre, l'autre élément sur lequel je voudrais revenir sur la tarification incitative, c'est qu'elle a des qualités. Par exemple, la première des qualités, c'est que dans toutes les collectivités où il y a de la tarification incitative, les gens savent combien coûtent leurs déchets. Parce qu'ils reçoivent, complètement à part de la taxe foncière, une vraie facture, voilà combien vous devez déchets. Ouais. Donc ça a au moins cette incitation-là. Et comme l'a dit Pauline, comme le bac jaune et le bac de déchets organiques est gratuit, ça pousse vers ce bon geste. Là où il ne faut pas se tromper, c'est que ce n'est pas gratuit ces bacs-là. le bac jaune n'est pas gratuit du tout. D'ailleurs, ça serait même un contresens que de dire finalement, je peux consommer autant de suremballage que je veux en plastique non recyclable, c'est gratuit. Donc il y a aussi un biais quelque part d'un tarification incitative, c'est qu'elle ne peut pas résoudre vraiment la question de la prévention ni des changements de consommation. Elle est capable de dire ce geste que je te demande comme effort va te coûter moins cher. Ça pose un autre problème, c'est que si on va au bout du raisonnement et que si tout le monde commence à trier bien, ça veut dire que le bac gris commence à plus trop être en capacité de financer les bennes qui passent, parce que les bennes de collecte sélective doivent passer. Et nous, on a quand même une question d'équilibre du financement du service. Donc, on est plutôt dans une phase de réflexion sur comment pourrait évoluer ces tarifications, peut-être en tarifant différenciamment, c'est le droit de se dire, les différents bacs, mais en ne disant jamais qu'un bac est gratuit, parce que mettre plein d'emballages dans un bac jaune n'est absolument pas gratuit, ça coûte même très cher à la collectivité.
Mais je disais qu'en introduction qu'on se planquait tous plus ou moins derrière notre bac jaune en disant non, mais attendez, moi j'ai mis mes papiers là-dedans. Donc, dans le même ordre d'idées, c'est pour vous deux, il y a Emmanuel qui dit justement, je vis dans une communauté de communes qui a mis en place la redevance incitative depuis plus de 10 ans, et quelle économie, dit-elle. Il y a une part fixe et ensuite un montant pour chaque levée du bac d'ordures ménagères, ça incite vraiment à trier et réduire ses déchets. Je sors ma poubelle 8 à 10 fois par an, et quand elle est pleine, et ça me coûte moins de 200 euros à l'année, nous dit-elle, pour une famille de 5 personnes. Donc on sent bien, Pauline Desbrabandères, qu'il y a de l'idée, mais ça mérite d'être mieux travaillé, en fait. C'est ça que j'entends de la part de nos auditeurs et de Nicolas Garnier.
Oui, ça mérite d'être mieux travaillé, et ça pose aussi une question d'équité, d'égalité sociale aussi, hein, parce que ça
parce qu'une famille de 5 personnes
aujourd'hui dans la tarification.
C'est très injuste, au fond, que cette famille-là qui gagne moins d'argent que moi, par exemple, paye moins parce que moi, je vis seule.
C'est ça. Donc, c'est une vraie question. Il faut trouver aussi des moyens, justement, de ne pas pénaliser les familles les plus nombreuses ou les familles les plus précaires. Enfin, il y a tout un enjeu autour de la tarification des déchets pour la prise en compte aussi d'éléments, enfin, de critères un petit peu sociaux sur cette tarification.
Si vous me permettez, si on parle de signal prix, il y a un signal prix au moment où on jette, mais le signal prix qui manque aujourd'hui, c'est le signal prix au moment où on achète.
Bien sûr.
C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait un signal qui permette de dire, attention, là, vous achetez quelque chose de pas cher, mais qui va produire beaucoup de déchets, parce que durée de vie faible, pas réparable, plastique non recyclable, etc. Et aujourd'hui, ce signal, vous l'avez pas. Donc, si on veut vraiment provoquer un changement de consommation, le signal qui manque aujourd'hui, c'est pour ça que nous, on porte l'idée des éco-contributions. En particulier, on a porté, c'est pas très à la mode, les taxes, mais tant qu'il n'y a pas une sorte de malus sur les produits qui ne se recyclent pas, et nous, on en a écrit un bouquin de 20 pages, si vous allez dans un supermarché, le nombre de trucs qui ne se recyclent pas. Si vous aimez la cuisine, les ustensiles, si vous avez un animal, la litière, etc. Et de se dire, ces gens-là, aujourd'hui, il n'y a pas de signal pour dire ce truc ne se recycle pas. Donc ça va se terminer en décharge et ça va coûter cher.
Mais justement, on a plein de messages là-dessus. On a Philippe qui dit, nous, on sort la poubelle grise 2 fois par mois, mais la jaune chaque semaine à cause du suremballage. De toute façon, on a même quelqu'un qui dit, j'habite dans les Landes et on n'a pas de poubelle jaune. Ça arrive les fois où il y a pas de, on n'a pas de poubelle jaune.
Là, je crois qu'on a un village gaulois là, parce que c'est normalement c'est généralisé 99,9% de...
probablement pour
il faut qu'il aille en demander une à la mairie.
Ou c'est qu'il y a les points d'apport volontaire et qui sont là pour amener effectivement les choses à leur place. Est-ce que ce serait contourner le problème et ne pas répondre à la bonne question effectivement si on se disait qu'il fallait inverser les collectes, c'est-à-dire parce qu'effectivement il y a plus de collectes de déchets ménagers alors que en effet on a tous réduit nos déchets ménagers d'une manière ou d'une autre, mais il y a toujours moins de collecte de poubelles jaunes et donc de déchets recyclables, alors qu'on a considérablement augmenté nos déchets recyclables, notamment à cause du suremballage. Donc est-ce que ce serait se tirer une balle dans le pied que de l'acter et donc ramasser plus souvent le jaune, en fait, à votre avis?
C'est ce qu'on est en train de faire, en fait. C'est vraiment la tendance aujourd'hui en termes d'incitation, c'est d'essayer de faciliter les collectes sélectives. Donc autrefois, on passait souvent 3 fois par semaine pour la poubelle grise et 1 fois par semaine pour la poubelle jaune. Et la tendance est plutôt d'équilibrer les choses pour globalement rendre la poubelle grise un peu moins confortable pour pousser les gens à recycler, ce qu'on appelle la collecte incitative sans tarification. Donc c'est une ouverture quand même très intéressante, l'idée de faciliter la collecte sélective. Par contre, effectivement, il y a un côté open bar sur le suremballage. Et là, je le redis, le vrai sujet, c'est qu'il n'y a pas de signal à l'amont sur le suremballage. Le suremballage coûte rien. Vous pouvez acheter des mandarines. Je crois qu'il y a eu des campagnes de pub dont on va peut-être vous parler. Et ça, on trouve que c'est un peu too much, comme dirait l'autre.
Exactement. Un mot, Pauline de Brandon,
effectivement, en fait, il faut remettre aussi sur le sujet des emballages la vraie responsabilité. Oui. Elle est au niveau des metteurs sur le marché, ceux qui mettent sur le, enfin, qui commercialisent ces emballages et qui ont tendance à les augmenter, à multiplier les différents matériaux, les différents formats, et qui complexifient effectivement. Le recyclage ne suffira pas, en fait, à venir à bout de ce fléau que sont les emballages. Au contraire, ça nous fait, en tout cas, nous maintenir sur un modèle d'usage unique. Il faut au contraire revenir à d'autres solutions. Le réemploi des emballages n'est pas si utopique que ça, et ça date pas encore d'il y a si longtemps que ça. Il y a encore des régions où on le fait en France. Et ça peut fonctionner. Il y a des expérimentations en cours et il faut continuer à aller investir là-dessus.
Nicolas nous attend depuis un moment. Bonsoir Nicolas.
Moi, je vous attends depuis un moment, c'est pas bien grave, je m'en remercie. Bonjour.
Oui, je vois bien. Bonsoir Nicolas, on vous écoute.
Je vous appelais, j'avais une petite question, c'était pour savoir pourquoi tous les départements n'étaient pas alignés sur la même réglementation. Parce qu'en fait, moi j'habite un petit village en Sud-Charente, on avait des conteneurs collectifs où tout le monde mettait son sac jaune, son sac noir. Et ils nous ont remplacé ça par des conteneurs individuels. Et parce qu'apparemment, les départements limitrophes, certaines personnes des départements limitrophes venaient mettre leurs déchets dans nos poubelles, entre guillemets, nos poubelles.
Ah bah ouais.
Et donc après, ils ont dit, bon allez, on arrête tout, et puis hop, on passe au truc individuel, comme ça chacun sortira sa poubelle, elles seront pas en permanence à l'extérieur. Et les gens qui vont au boulot n'auront pas à balancer leur poubelle.
Je vois très bien ce que vous dites. Moi, j'ai l'impression, merci beaucoup Nicolas, j'ai l'impression que c'est un peu un sport national, disons les choses clairement. Quand on est à la pesée, je n'en parle même pas. On a une enclume achetée, on vaut mieux la jeter chez le voisin, etc. Et des choses comme celles que Nicolas raconte, il y en a beaucoup.
Alors, deux éléments de réponse. Le premier, c'est que la gestion des déchets, et on l'a dit au début, est organisée au niveau de l'intercommunalité. Donc, c'est des communes qui se sont regroupées. C'est soit une communauté de communes, une communauté d'agglomération ou un syndicat. Et ce syndicat a organisé son service. Donc, si vous passez d'un territoire d'un syndicat ou d'une aglo à un autre, il se peut que le service soit pas totalement organisé de la même manière, c'est normal, c'est-à-dire apport volontaire, porte à porte. Le deuxième sujet qu'aborde Nicolas, un autre Nicolas, c'est effectivement que s'il y a un territoire qui est en tarification incitative, sans vouloir les stigmatiser, il peut y avoir la tentation de certains gestes d'acivisme du type « je vais aller le mettre dans la poubelle du voisin
». Ah oui.
Ça existe un peu. Au passage, ça se gère, il faut un peu suivre ça, mais ça gère. Et c'est vrai que du coup, ça s'est beaucoup vu aussi sur les poubelles de bord de route. C'est-à-dire que sur les départementales, on s'est retrouvé des fois avec des monceaux de poubelles parce que globalement, on les mettait là où c'était gratuit, alors que chez soi, il y avait la puce qui pesait. Bon, c'est des problèmes qui, dans l'ensemble, arrivent à se régler, mais c'est vrai que de temps en temps, il peut y avoir ce genre de biais. On n'en fait pas non plus une maladie parce que les collectivités qui ont mis en place la tarification incitative depuis longtemps ont globalement réglé ces problèmes-là. Cela dit, il y a un sujet qu'on n'a peut-être pas eu le temps d'aborder, qui a été abordé par Mireille au tout début, c'est que, effectivement, on a une gangrène dans ce pays, c'est les dépôts sauvages.
Oh ouais.
Et ça, c'est peut-être l'occasion d'en dire deux mots parce que, en fait, c'est la cause nationale numéro un des collectivités locales. Elles sont de toute taille. Je vous rappelle que le premier dépôt sauvage, c'est un mégot par terre.
Ouais.
Ça s'appelle un dépôt sauvage sur plan juridique. Amende, je le rappelle pour les gens qui nous écoutent, je pense qu'ils ne le font pas, c'est des gens bien éduqués, c'est 68 à 1500 euros à chaque fois qu'on met un mégot par terre. Mais le mégot, des fois, c'est un emballage. L'emballage, des fois, c'est un meuble. Le meuble, des fois, c'est un tas. Et des fois, c'est quasiment une décharge. Ouais. Et nous, aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est effectivement que les metteurs sur marché de ces produits participent à la gestion de ces dépôts sauvages, parce qu'il y a beaucoup de déchets du bâtiment, par exemple. Il y a beaucoup de déchets des D3E, donc des déchets criques électroniques ou des meubles. On se dit, ces éco-organismes ont été créés pour gérer des collectes sélectives. Ils doivent aussi financer ces dépôts qui sont quand même le dépôt de des produits qu'ils ont vendus et que des habitants n'ont pas bien traité, n'ont pas bien géré.
Et c'est ce qui rend parfois la vie des maires très difficile, parce qu'on se souvient que c'est en luttant contre un dépôt sauvage, souvenez-vous que un maire dont je ne citerai pas la commune, avait été agressée. Je voudrais vous soumettre la question de Joël sur WhatsApp qui dit « En Bretagne, pour apporter mes déchets ménagers en colonne d'apport volontaire, j'ai un badge, 60 euros, et je paie 200 euros par an. Une voisine, qui a un conteneur collectif, qui est relevé, paie 80 euros par an. Et personne ne comprend rien ni pourquoi. Est-ce qu'il n'y a pas une façon d'harmoniser ça aussi pour que chacun comprenne? C'est un peu comme les places quand on prend un train, que chacun sache que son voisin a payé, et de préférence la même chose.
Bah. Après, effectivement, ça dépend des territoires en question. En fait, s'ils ne sont pas sur le même syndicat, comme expliquait Nicolas juste avant, forcément, les décisions prises par les élus au niveau local sur la gestion, la prévention, les modes de collecte sont complètement différentes, potentiellement. Donc, c'est un vrai sujet. La commune d'à côté peut avoir des modes de collecte, de traitement complètement différents d'une autre. C'est un problème de lisibilité. Après, l'important, c'est quand même que ce soit déjà clair sur son propre territoire de ce qu'on fait. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui payent la taxe sur les ordures ménagères, ne savent pas combien ils payent. En fait, personne ne voit jamais combien ils payent sur son impôt foncier. En fait, c'est un vrai sujet de transparence. On aurait peut-être effectivement besoin d'un peu plus d'informations là-dessus.
On a Hélène qui nous a rappelé, c'est celle qui avait laissé un message en disant qu'elle n'avait pas de poubelle jaune, et c'est bien ce qu'on avait imaginé. Effectivement, point d'apport volontaire, elle dit « Mais je ne vis pas dans un village gaulois, nous n'avons plus de poubelle grise ou jaune, nous devons amener notre sac poubelle ou nos sacs recyclage au point de collecte. » Voilà.
Ça vraiment, il faut comprendre, c'est une optimisation des coûts. On aime ou on n'aime pas, mais plus le service est bon, plus ça coûte cher, et à un moment donné, les élus essayent de faire des compromis entre une qualité de service et en même temps un coût qui ne doit pas augmenter. À condition, on pourrait imaginer d'autres choses, hein. Si on arrêtait d'avoir une taxe étatique, on aurait plus de moyens pour faire un service de qualité. Si les metteurs sur le marché de ces produits contribuaient davantage à ces collectivités, on ferait des services de meilleure qualité. Et là, aujourd'hui, on est un peu seul avec nos impôts locaux qu'on n'a pas très envie d'augmenter. Donc, on essaie de trouver des services optimisés, d'où le développement des points d'apport volontaires qui coûtent moins cher que le porte-à-porte.
Une question de Caroline. Bonsoir, Caroline.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Merci pour votre excellente émission. Je voulais témoigner d'une visite que j'ai pu faire il y a 5 ou 6 ans, qui est le centre de gestion des déchets de South London. Ils ont une particularité, c'est que dans ce quartier-là, ils ne trient pas les biodéchets, ils mettent les biodéchets dans les sacs gris, en pratique. Mmh. Et quand ça arrive au centre, tout ça est mis dans des énormes hangars, c'est broyé, c'est des hangars qui sont sur grille, et en fait, ils récupèrent les émanations pour en faire du biogaz, et tout ce qui tombe en liquide au bout des 3 jours de décomposition à 60 degrés, est transformé en engrais. Mmh. Donc je me posais la question de savoir pourquoi est-ce que on n'explore pas aussi un peu du côté de la technologie pour améliorer la façon dont on gère nos déchets, parce que ça éviterait justement ces problèmes de ramassage séquentiel, etc.
Merci Caroline, vous êtes à Londres. Caroline est à Londres, ça existe. Hein. On va dire marginal, on peut dire quand même que c'est assez marginal.
Il y a 40 installations en France.
Voilà. Ouais.
Donc c'est quand même assez développé. Ouais.
On appelle ça du tri mécanobiologique en France. Et en fait, c'est effectivement tout mettre en mélange dans la poubelle d'OMR et essayer de séparer après. Moi, je compare souvent ça. C'est comme si on essaye de séparer les blancs des jaunes après avoir fait une omelette.
Okay.
Ça marche pas.
Okay.
En fait, c'est-à-dire que vous allez
l'image est parfaite.
Énormément de plastique dans la partie biodéchets. Mmh. Ça va être en mélange, ça va être pollué. Enfin, les biodéchets se dégradent quand même, se décomposent, s'oxydent, se mélangent avec plein de matériaux. Et en général, ce qui va ressortir en termes d'engrais et de compost, ça va être d'assez mauvaise qualité. C'est un véritable enjeu pour le retour au sol. Donc on est plutôt contre cette idée.
On a un point de désaccord ce soir avec Pauline, donc nous on considère effectivement que c'est une solution parmi d'autres. Aujourd'hui il y a 48 installations qui fonctionnent et une partie de ces installations arrive à faire des produits de qualité. Alors c'est vrai, il faut extraire, mais la question c'est est-ce que la main de l'homme collecte sélectivement mieux que le tri d'une machine ? Et effectivement on a un certain nombre d'installations qui arrivent à faire du compost de qualité ou de la méthanisation comme le disait l'auditrice, donc c'est pas la voie principale, mais on considère qu'il y a quand même des capacités à développer ces valorisations-là aussi.
Allez, je le retourne. Merci beaucoup les amis, merci à vous d'avoir participé à cette émission. Merci à tous pour vos nombreuses questions.